Laudetur Jesus Christus.
Alors que les opérations de secours se poursuivent trois jours après le séisme en Birmanie pour retrouver des survivants, les appels à la solidarité se multiplient. La diaspora birmane, elle, est très éprouvée. Reportage à suivre à Singapour. Un coup de tonnerre en France où Marine Le Pen, deux fois finaliste à la présidentielle, est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité dans une affaire d'emploi fictif. Décision sans surprise qui peut créer de gros remous politiques. Nous le verrons. Dans ce journal également, le ras-le-bol de la société civile sud-soudanaise qui exhorte Salva Kiir et Riek Machar à quitter leurs fonctions. Les deux leaders sont de nouveau au bord de la guerre civile. Et puis nous irons également en Guinée où la junte au pouvoir gracie l'ancien capitaine Moussa Dadis Camara.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, les équipes de secours sont toujours dépêchées en Birmanie au chevet des victimes du séisme du week-end dernier. Une semaine de deuil national a été annoncée par la junte ce lundi matin. Le dernier bilan est d'au moins 1700 morts et 300 disparus dans un pays en pleine guerre civile et très pauvre. Ce tremblement de terre a placé de nombreux Birmans de la diaspora dans une profonde inquiétude. C'est le cas à Singapour, où vivent près de 200 000 d'entre eux, travaillant comme agents d'entretien ou ouvriers du bâtiment. Chaque dimanche, la communauté birmane se retrouve dans un centre commercial du centre de Singapour. Évidemment, le séisme était sur toutes les lèvres. Le reportage sur place de Philippe Dova.
Chaque dimanche, ils sont des milliers de Birmans à arpenter les étages du Peninsula Plaza, un centre commercial entièrement dédié à leur communauté au sein de la cité-État. Mais en ce dernier dimanche de mars, le séisme était au cœur de toutes les conversations et l'euphorie habituelle des retrouvailles dominicales avait fait place à l'angoisse et à la tristesse, visible sur de très nombreux visages, comme celui de Madame Wint, les yeux emplis de larmes, en découvrant une école maternelle en ruine sur des photos envoyées depuis Mandalay par son mari.
Vous voyez derrière, il y a un bébé. Ils ne peuvent même pas l'extraire des décombres, il est déjà mort. 50 petites filles, 5 enseignants sont morts dans cette école. 5 de ces 7 étages se sont effondrés. Toute la famille de l'une de mes amies est morte. La maison de son père s'est effondrée et ma grand-mère aussi est décédée. Je ne peux pas contrôler mes larmes. Et on ne peut pas avoir de nouvelles car il n'y a plus Internet là-bas. C'est horrible pour mon pays. Et on ne peut pas y aller non plus. Nous ne pouvons que travailler ici pour aider nos familles.
Une tristesse partagée par Titik, jeune employée de maison arrivée récemment pour travailler à Singapour.
Ma famille et mes amis vont bien, mais je suis tellement triste. Je veux aider mon pays, je peux aider avec mes petits moyens, envoyer un peu d'argent, mais comment puis-je appeler à l'aide?
Des appels à l'aide entendus ici, le gouvernement singapourien a dépêché samedi dernier 80 médecins, ambulanciers et spécialistes de la recherche avec du matériel pour participer aux opérations de secours. À Singapour, Philippe Dova pour Radio Vatican.
Le pape avait dès le 28 mars envoyé lui un télégramme pour partager sa proximité avec les Birmans affectés par cette catastrophe. L'archevêque de Rangoon, l'ancienne capitale birmane, appelle lui à faire de cette épreuve une occasion pour lancer un cessez-le-feu et réconcilier les Birmans. Une autre Birmanie est possible, explique le cardinal Bo. Plus de détails à retrouver sur notre site internet. Le Japon, lui, beaucoup plus armé face aux risques sismiques, publie ce lundi une nouvelle estimation de ces risques et en cas de, notamment d'un méga séisme qui intervient tous les 100 ou 200 ans. Il aurait lieu sous une faille sous-marine au sud de l'archipel. Un méga séisme qui serait suivi d'un tsunami et pourrait faire, selon le gouvernement nippon, jusqu'à 300 000 morts. À la une de l'actualité également, je vous en parlais en titre, ce coup de massue pour le Rassemblement National et Marine Le Pen en France. En particulier, à 2 ans de la prochaine élection présidentielle, elle a donc été reconnue coupable de détournement de fonds publics et condamnée ce matin, avec plusieurs co-prévenus, à une peine d'inéligibilité. On parle de 4 ans, dont 2 fermes, et une peine avec exécution immédiate, Marie Duhamel.
Oui, Marine Le Pen n'a pas attendu de connaître les détails concernant sa peine pour quitter le tribunal correctionnel de Paris sans prononcer un mot. La dirigeante du groupe RN à l'Assemblée des députés du Pas-de-Calais est donc reconnue coupable avec 8 eurodéputés de détournement de fonds publics. Marine Le Pen était accusée d'être au centre d'un système de détournement de l'argent versé par l'Union européenne destiné à l'embauche et aux activités des assistants des eurodéputés. De l'argent qui aurait financé donc les activités politiques du parti d'extrême droite de 2004 à 2016. Un préjugé estimé à plusieurs millions d'euros. Condamnée Marine Le Pen, elle s'est rendue immédiatement au siège de son parti dans le 16e, sans doute pour accuser le coup, car le verdict la concerne concernant est implacable. Elle se voit donc condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes aménageables avec un bracelet électronique, à 100 000 euros d'amende et donc, vous l'avez dit, surtout à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire immédiate. La 3 fois candidate malheureuse à la présidentielle, favorite des sondages. Elle qui dénonçait un procès politique lors du réquisitoire, Marine Le Pen ne peut donc pas se présenter en 2027, même si elle fait appel. Ce soir, elle sera l'invitée de la télévision à 20h. Alors, ce verdict sera-t-il compris par les Français? Certains craignent qu'il ne fasse le jeu du RN. Le parti doit en tout cas trouver un autre candidat. À 29 ans, son président, Jordan Bardella, apparaît comme une alternative toute trouvée, lui qui bénéficie d'une large cote de sympathie.
Merci beaucoup, Marie Duhamel. Et parmi les premières réactions, celle du Kremlin qui dénonce, je cite, dans ce verdict, une violation des normes démocratiques. Je suis Marine, a tweeté pour sa part le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Restons en France où s'ouvrira demain l'Assemblée plénière de printemps des évêques de France. Elle durera jusqu'à vendredi prochain et la question de la lutte contre les abus dans l'Église restera un thème majeur de ces journées de travail. Ce matin, s'est d'ailleurs ouverte une session spéciale d'une journée et demie d'évaluation des perspectives dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est ouvert, il est entamé, mais loin d'être achevé, a commenté le président de la conférence, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Ces 3 sessions d'une demi-journée se font en présence de personnes victimes, à noter également celle à Lourdes de l'ambassadrice de France, près le Saint-Siège, Florence Mangin. Et puis à noter que les mosaïques qui entourent les 2 portes latérales de la basilique du Rosaire à Roux, à Lourdes, cœur du sanctuaire, ont été recouvertes de panneaux ce lundi. Elles ont été réalisées par Marco Ropnik, ancien jésuite condamné pour agression sexuelle sur plusieurs femmes. Le Soudan du Sud, proche d'un retour de la guerre civile, les inquiétudes sont formulées par les Nations Unies depuis plusieurs semaines, ou encore l'IGAD, l'Organisation panafricaine des États d'Afrique de l'Est. Le placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar par le pouvoir de Salva Kiir a fait voler en éclats l'accord de réconciliation en 2018. Dans le plus jeune pays du monde, la société civile appelle, elle, à tourner la page des 2 rivaux. Les précisions de notre correspondante régionale, Augustine Passy.
Le collectif sud-soudanais Reclaim, composé d'activistes, de femmes et d'hommes politiques, de chefs religieux et d'universitaires, a publié ce matin un communiqué au ton fataliste, constatant que ni le président Salva Kiir ni son premier vice-président Riek Machar n'ont eu la volonté de mettre en œuvre l'accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud, signé par les 2 adversaires en 2018. Nous pensons qu'une paix véritable et durable au Soudan du Sud est impossible tant que Kiir, Machar et leurs milices resteront au pouvoir, affirment ces représentants de la société civile. Ils appellent la communauté internationale à soutenir la tenue d'un dialogue entre Sud-Soudanais qui serait mené par des citoyens ordinaires et non par des élites politiques et des acteurs militaires. L'objectif consiste à préparer cette ère post-Salva Kiir et Riek Machar en identifiant les causes profondes de la crise en cours. La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est inquiété de cette escalade qui rappelle selon lui la guerre civile ayant ravagé la plus jeune nation du monde à partir de 2013 avec un lourd bilan de 400 000 morts. La menace s'est en effet accrue le mercredi 26 mars avec le placement en résidence surveillée de Riek Machar. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Et hier, dans un message écrit publié à l'heure de l'Angélus, le pape François, qui s'était rendu à Juba il y a 2 ans, a partagé sa préoccupation devant la dégradation du climat politique dans le pays et exhorté les leaders à relancer un dialogue constructif. On reste sur le continent africain, en Guinée, où le président de la transition a signé ce week-end un décret de grâce présidentielle en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara. Il était le chef de la junte de 2008, une décision qui n'est pas dénuée d'arrière-pensée politique. À Conakry, Emmanuel Limono.
Le capitaine a regagné son domicile moins d'une heure après la publication du décret de grâce présidentielle. Moussa Dadis Camara ne s'est pas encore exprimé, encore moins ses avocats qui disent préparer une communication officielle. Mais chez ses proches, dans sa famille aussi, c'est la joie depuis vendredi soir. Ses résidences de Conakry ont été prises d'assaut dès le petit matin de samedi et on y trouvait de nombreux soutiens de l'ex-président chantant et dansant pour exprimer leur joie. Dans sa ville natale aussi, ses proches ont fait la fête toute la journée. Chez les victimes du massacre du 28 septembre 2009, cependant, c'est l'incompréhension et la colère. Certains estiment que le capitaine bénéficie finalement d'une impunité, alors que d'autres disent avoir perdu foi en la justice guinéenne. Un des avocats de la partie civile a d'ailleurs menacé de saisir la Cour suprême pour s'opposer à ce décret. Un autre a cependant admis que cette grâce rejoignait une dynamique de réconciliation nationale. Le capitaine Moussa Dadis Camara a été libéré pour raison de santé, mais certains observateurs redoutent plutôt une entente politique entre lui et le général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Emmanuel Milimono, Conakry, pour Radio Vatican.
Et c'est en Guinée que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera ce soir à 18h en direct de Rome. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site vaticannews.va. Je vous souhaite une excellente après-midi.